France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Sans gluten, sans lactose, faut-il les éliminer de son alimentation quand on n'est pas intolérant? Comment expliquer que de plus en plus de personnes se tournent vers ce type de régime alors qu'elles ne sont pas malades, alors que valent ces régimes gluten, sans gluten et sans lactose, régime au sens de modification dans la manière de s'alimenter? Quels sont leurs réels bienfaits d'un point de vue hépato-gastro-entérologique et d'un point de vue nutritionnel? Se sent-on vraiment en meilleure forme après avoir banni le lait de vache ou la farine de blé ou de seigle de son alimentation? Nous verrons ce qu'est exactement l'intolérance au gluten et au lactose, éléments de réponse avec nos invités. Toutes vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous laisser également des notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rébéi.
Les croissants. Vous allez aller acheter quoi? Chez le boulanger, un paquet de levure qui fait 42 grammes. Et puis, quand c'est fait, regardez devant moi 325 grammes de farine que je verse dans une petite passoire fine pour enlever les grumeaux. Et là, qu'est-ce que je fais? Un petit puits au milieu de ces 320 grammes de farine. Et là-dessus, j'ajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. 1 et 2. Et sur ces 2 cuillères à soupe de lait en poudre, j'ajoute 1 cuillère à soupe de sucre en poudre. Terminé. Et ta 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 ti ta ta. Tu peux me chanter quelque chose là-dessus, Christian, maintenant qu'on est bien réveillé?
La-ri-la-ri-la-ri-la-ri-la.
Avec des croissants et des croissants chauds. Au le café, au lait, au lit.
Ça fait de la
c'est
poussière.
C'est pas un rythme quand même. Oui, ça fait de la poussière.
Le chef Michel Oliver, dont je suis fan, vous le savez, dans La vérité est au fond de la marmite sur Antenne 2. En 1980, une recette avec beaucoup de gluten et beaucoup de lactose. Bonjour Clémentine Oliver.
Bonjour Ali.
Vous êtes atteinte de la maladie cœliaque, c'est donc l'intolérance au gluten. Pendant 15 ans, vous avez été psychologue clinicienne à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Oui. Et vous êtes désormais boulangère, pâtissière sans gluten. Vous fournissez des palaces, des grands chefs. Et vous aviez publié avec votre père, Michel Oliver, le célèbre chef et présentateur télé, Je cuisine sans gluten et je me régale. Bonjour professeur Christophe Cellier.
Bonjour.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue et chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour professeur Boris Ancel.
Bonjour Ali.
Vous êtes endocrinologue et nutritionniste, l'auteur de Manger l'esprit léger chez Michel Lafon, et on vous retrouvera évidemment tout à l'heure dans votre chronique Quoi de neuf. Docteur, on s'intéresse donc au régime sans gluten et sans lactose. Commençons par les régimes sans gluten qui intéressent au premier chef les personnes atteintes de la maladie cœliaque ou intolérance au gluten. Qu'est-ce que le gluten tout d'abord, professeur Boris Ancel, et dans quel type d'aliment le retrouve-t-on principalement?
Alors, le gluten, c'est une protéine complexe. Elle agglutine des protéines. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça gluten. Gluten, ça vient du latin glutinis. Ça veut dire liant. En fait, c'est ce qui explique pourquoi, quand vous faites de la pâte, eh bien, c'est élastique, ça revient quand vous tirez dessus, et pourquoi c'est extensible, ça peut s'étirer. Donc, on va retrouver du gluten dans les céréales, en particulier dans le seigle, le blé, l'orge, et également, dans une moindre mesure, certaines formes de gluten dans l'avoine. Donc, tous les produits qui sont faits à base de ces produits céréaliers contiennent du gluten.
Et donc, professeur Christophe Cellier, qu'est-ce que la maladie cœliaque? C'est quoi? C'est une maladie intestinale chronique et auto-immune liée donc à l'ingestion de gluten?
Tout à fait. Mmh. C'est une maladie qu'on dit une entéropathie auto-immune. Hein, c'est-à-dire que le gluten, chez des gens qui sont prédisposés, vont induire une destruction de leur paroi interne de l'intestin, le petit intestin, qui peut entraîner à certains degrés des malabsorptions de nutriments, le calcium, le fer, de la diarrhée, des ballonnements. Alors un des problèmes de cette maladie, c'est que c'est une maladie très fréquente, on estime environ 1% de la population, c'est qu'elle peut être complètement sournoise, c'est-à-dire qu'elle peut se révéler dans l'enfance, elle peut se révéler à l'âge adulte, voire même après 60 ans, on a 20% de diagnostic après 60 ans, et que les symptômes sont complètement polymorphes, c'est ce qui fait la difficulté alors qu'on a un test très simple. Par exemple en Italie, ils dépistent les enfants dans les écoles de façon systématique, hein, par la loi maintenant, et on arrive à 2% de la population, dont 2/3 sont pas symptomatiques ou asymptomatiques.
Quand un intolérant au gluten ingère un aliment contenant du gluten, des spaghettis par exemple, son système immunitaire réagit, c'est ça, à la protéine du gluten, la gliadine, c'est ça ?
Voilà, la gliadine va induire une réaction immunologique, hein, une réaction inflammatoire, comme dans les maladies inflammatoires d'autres, il y a la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique par exemple, et ça va inflammer l'intestin et le détruire progressivement. Sauf que là, c'est plus sournois parce que ça le fait à bas bruit, quoi, si vous voulez. C'est tardivement qu'on a des symptômes par rapport à l'ingestion répétée.
Précisons que seuls 1 à 2% de personnes sont intolérants au gluten atteints par la maladie cœliaque. C'est le bon chiffre ou est-ce que ça a tendance à augmenter
C'est le chiffre estimé. On a une augmentation des maladies auto-immunes en général dans la population occidentale, hein, dans la population dépistée. On dit entre 1 et 2%. En France, on n'a pas de chiffre, mais si on se réfère à l'Italie, à moins qu'il y ait des choses très différentes et que les Alpes bloquent la maladie, on devrait être dans ces eaux-là. Par contre, on a un sous-diagnostic qui est majeur.
Pourquoi ?
Parce que, comme je vous l'avais dit, les symptômes sont un peu mineurs, on n'y pense pas. Le problème de plus manger de pain, de la baguette en France, c'est quand même un blocage probablement psychologique. Et puis on ne pense pas encore, alors qu'on a un test très simple, les anticorps antitransglutaminase, c'est une prise de sang toute bête, même en Italie ils le font avec des tests au doigt, on pourrait faire des augmentations de diagnostic chez la plupart des personnes non diagnostiquées.
Clémentine Oliver, vous allez nous raconter comment vous avez découvert cette maladie cœliaque dont vous êtes atteinte. Vous ne pourriez pas manger la recette de votre père en introduction, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible.
Qu'est-ce qui se passe justement ? Comment vous avez, avant de nous raconter ce qui se passe dans votre corps quand quand vous mangez encore du gluten avant de connaître votre maladie. Comment vous l'avez découverte, cette maladie ?
Sur le tard. Ce que disait le professeur Cellier, ça me parlait vraiment très fort, puisque, en fait, moi, pendant 10 ans, j'ai souffert non-stop. J'avais des maux de ventre, je me vidais tout le temps. Mm-hmm. Pardon. Et j'étais tout le temps malade, mais je ne savais pas
avec
pourquoi.
Avec une fatigue aussi, peut-être ?
J'avais une fatigue, je ne fixais pas le fer. J'avais vraiment un panel, plus des problèmes de peau, plus des problèmes féminins, très importants aussi.
Et vous ne saviez pas pourquoi ?
Je ne savais pas du tout. Et j'allais voir plusieurs médecins, mais on m'a pas fait, alors que je mangeais le gluten, on m'a pas fait le test très simple dont vous parlez. Et donc j'errais, je souffrais en permanence. J'étais au stade 2 sur 3 de la douleur, tout le temps. Donc je prenais jusqu'à 8 antalgiques par jour, ce qui est totalement interdit, mais il fallait que je tienne, puisque à l'époque je travaillais, j'étais dans un autre métier que celui que je fais actuellement.
Vous étiez psychologue ?
J'étais psychologue.
Clinicienne ?
Clinicienne, j'ai fait ça pendant 15 ans. Avant de faire de la psycho, j'avais fait un doc de droit. J'étais vraiment dans un autre parcours que celui de ma famille.
Et vous êtes revenue quand même.
Et la vie m'a rattrapée, il n'y a pas de hasard.
Vous êtes aussi la petite fille de Raymond Oliver, la première émission gastronomique à la télévision, à l'ORTF à l'époque.
Oui, il ouvrait l'ORTF et puis la fille de mon cher papa, Michel Oliver. Donc c'est parce que je souffrais en permanence que finalement j'ai fini par voir une naturopathe qui m'a dit « vous digérez plus rien ». Et comme vous digérez plus rien, votre système, votre corps pour se préserver, a d'abord touché les organes annexes au système digestif, et entre autres féminin. Et donc elle m'a fait arrêter, pour que ça aille mieux, tout ce qui était à base de lactose, à base de sucre et à base de gluten. À l'époque, en 2010, gluten, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je dis glucois.
Mais ce qui est assez étrange dans le parcours de Clémentine Oliver, c'est qu'elle ait dû passer par une naturopathe. Alors on sait qu'il y a à boire et à manger dans cette corporation, et qu'un médecin n'ait pas détecté sa maladie cœliaque. professeur Cellier.
Alors, c'est possible. Hein. Donc, avant, on pensait que la maladie cœliaque, c'était que les enfants, que les jeunes enfants qui avaient un retard de croissance. Donc, peut-être dans les facultés, ça a été moins enseigné. Ça n'a pas été très médiatisé jusqu'à récemment, les problèmes liés à la maladie cœliaque et au gluten. Mais là, je pense, enfin, j'espère, en tout cas, que c'est en train de changer, qu'on va avoir un accès au diagnostic plus simple, hein, et que ça va rentrer un peu dans le cadre du dépistage de maladies digestive classique comme diagnostic différentiel.
Et j'imagine, Clémentine Oliver, que vous avez ensuite consulté un médecin.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai arrêté ce qu'elle m'a dit d'arrêter, puisque je ne pouvais pas. C'était ça, soit je suis passée sur le billard pour les autres problèmes et on m'enlevait tout ce que je ne voulais pas. Donc,
vous êtes atteinte également d'endométriose.
J'avais très sévère. Elle était à l'époque vraiment... Voilà. Et donc, dans la semaine où j'ai tout arrêté, j'ai aussi arrêté les antalgiques parce que la douleur est partie. Ça a quand même été très manifeste, au bout de 3 jours. Et j'ai tout nettoyé pendant plus d'un mois. Et puis j'ai réintroduit petit à petit, j'ai réintroduit le sucre, aucun problème. Les produits laitiers, aucun problème. Le gluten, dans la demi-heure. Boum, lave-toi au palais, le bide qui gonfle, et direction les toilettes, et j'étais bloquée.
C'est-à-dire que le traitement de première intention quand on est atteint de la maladie cœliaque, professeur Cellier, c'est l'éviction du gluten.
Alors oui, c'est d'abord de faire le diagnostic hein, quand même, parce qu'il y a d'autres pathologies comme les hypersensibilités au gluten ou les troubles fonctionnels intestinaux qui peuvent être améliorés par le régime sans gluten, c'est de faire le diagnostic. C'est-à-dire ça consiste à faire une prise de sang avant d'introduire le régime. Si elle est positive, on peut dans certains cas faire un prélèvement dans les intestins par une fibroscopie, et après commencer le régime sans gluten pour être sûr que c'est bien de la maladie cœliaque dont on parle.
Et on verra tout à l'heure la différence entre la maladie cœliaque et l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. On verra ça tout à l'heure. Boris Ancel, dans une vingtaine de minutes, vous allez nous proposer votre chronique « Quoi de neuf, docteur ?» au menu.
Ah ben, au menu, c'est l'hiver, Ali.
C'est encore l'hiver, hélas.
Et voilà, et en hiver, on mange de la soupe. Et bien moi... Je vous dirai, enfin, on vous dira, on dira si la soupe, c'est vraiment bien pour la santé. Bon, la réponse, c'est oui, voilà.
Études scientifiques à l'appui.
On vous donnera des conseils pratiques pour que ce soit votre meilleur ami.
Grand bien vous fasse.
Je vais essayer sans gluten. Et ça consiste en quoi? Bah, t'as pas le droit de manger ni de pain, ni de pâtes, ni de pizza, ni de gâteau, c'est très dur. Hein.
Non, c'est pas dur. Moi, je fais ça depuis toute petite.
Pourquoi tes parents étaient intolérants au gluten?
Non, pauvre, très pauvre.
Sur France Inter.
Et vous avez peut-être reconnu Catherine et Liliane. Peut-il adopter un régime sans gluten et sans lactose quand on n'est pas intolérant? C'est notre thème ce matin, l'occasion de revenir sur les véritables intolérances au gluten et au lactose. Petit rappel pédagogique sur ce qu'est la maladie cœliaque dans l'émission Matière grise sur la RTBF en juillet 2022.
La sensibilité au gluten est reconnue dans le milieu médical, mais les preuves biologiques manquent encore. En revanche, là où la science se prononce sans équivoque, c'est au sujet de la maladie cœliaque. Ici, on ne parle pas de sensibilité, mais d'intolérance grave. Dans ce cas, une infime quantité de gluten suffit à provoquer une poussée inflammatoire. Devenu hyperactif, le système immunitaire déraille. Il s'attaque à la paroi de l'intestin grêle, l'organe qui permet l'absorption des nutriments. Endommagé, les villosités, ces petits plis intestinaux, ne peuvent plus accomplir leur travail. C'est alors que les conséquences peuvent devenir sérieuses.
Extrait de l'émission Matière grise sur la RTBF, professeur Christophe Cellier, je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue. Quelle est la différence entre l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque, et l'allergie au gluten?
Alors, c'est deux maladies complètement différentes par les mécanismes. L'allergie, c'est comme toutes les allergies. C'est médié par les IgE, entre guillemets.
Les IgE,
C'est des protéines de l'inflammation immédiate liées à des allergènes. On parlait tout à l'heure des allergènes dans l'air. Il y a des allergènes alimentaires. Alors, au gluten directement, c'est exceptionnel. C'est plutôt les allergies au blé. C'est-à-dire qu'on a une réaction immédiate avec des gonflements, des manifestations respiratoires. C'est relativement rare. Hein. Mais ça peut poser soucis, par exemple, chez les boulangers ou autres, parce qu'être allergique... au blé, c'est un peu compliqué d'y travailler. L'intolérance au gluten, c'est une autre maladie. C'est une maladie qu'on appelle la maladie cœliaque dans le jargon, qui est une maladie auto-immune où on développe des anticorps contre soi-même liés à l'ingestion, au contact de gluten dans l'intestin, qui induit progressivement une inflammation dans l'intestin et une destruction, voire d'autres maladies ailleurs, d'autres symptômes ailleurs, de la fatigue. Donc c'est deux maladies complètement différentes, mais l'une est beaucoup plus fréquente que l'autre, c'est l'intolérance au gluten, la maladie cœliaque.
Et pourquoi l'intolérance au gluten semble plus fréquente chez les femmes que chez les hommes? On sait pourquoi?
Alors, La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, et toutes les maladies auto-immunes, pour des raisons diverses et variées, je ne vais pas rentrer dans les détails, sont plus fréquentes chez les femmes. C'est une injustice de la vie, je dirais. Et ces maladies auto-immunes, c'est 2 à 3 fois plus fréquent chez la femme que chez l'homme.
Est-ce que c'est génétique ou pas ?
Alors, il y a une composante génétique dans la maladie cœliaque, comme dans toutes les maladies auto-immunes, mais pas uniquement. Il y a une composante génétique, c'est-à-dire 20%, c'est ce qu'on appelle le HLA dans notre jargon, DQ2, DQ8. Si on l'a, on va pouvoir développer la maladie, mais parmi ceux-là, il n'y a que 1% de ces gens-là qui ont le HLA qui vont développer la maladie. Il y a d'autres facteurs et probablement des infections virales dans l'enfance qui vont sensibiliser l'intestin à cette hyper activité liée au gluten et cette hyperaction de l'immunologie liée au gluten. Donc c'est probablement des virus contactés dans l'enfance qui déclenchent la maladie plus tard.
Clémentine Oliver, je rappelle que vous êtes boulangère, pâtissière et que vous proposez de délicieux pains et pâtisseries au gluten, notamment...
Sans gluten.
Sans gluten, pardon. le lapsus, je suis encore à titre personnel très attaché au gluten, des pâtisseries et des pains sans gluten que Boris Ancel a dégusté.
Délicieux. Le cookie en particulier. Hein.
Et le cannelé.
Est-ce que dans votre famille, il y avait des personnes atteintes de cette maladie cœliaque?
Mais justement, c'était intéressant quand j'entendais le professeur Cellier dire qu'il y avait des composantes génétiques également. C'est que nous, on est plusieurs filles et il y a un garçon aussi dans la fratrie. Et le garçon n'a rien et les filles, on l'a toutes alors qu'on n'est pas de la même maman.
Ah.
Donc c'est notre papa qui semblerait-il est porteur sain.
Vous
avancez
là.
Il nous a gentiment donné ça.
Alors depuis quelques années, j'entends parler de la sensibilité au gluten non cœliaque. On parle d'une hypersensibilité au gluten. C'est une pathologie encore peu étudiée par la recherche, professeur Cellier. Est-ce que ce sont les mêmes symptômes que la maladie cœliaque ?
Alors, ça peut être exactement les mêmes symptômes. Globalement, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité non cœliaque au gluten ? C'est des gens qui se plaignent de troubles digestifs, de maux de ventre, de douleurs, de diarrhée, de ballonnements, et puis de troubles extra-digestifs, des douleurs articulaires, de la fatigue, l'esprit un peu brouillé.
Mais ça ressemble à la maladie cœliaque.
Ça ressemble complètement à la maladie cœliaque, sauf que quand on recherche la maladie cœliaque, quand on fait les anticorps ou quand on fait les prélèvements dans l'intestin, il n'y a pas d'anomalie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anomalie. Et on ne sait pas uniquement si c'est uniquement le gluten, ça peut être aussi d'autres ingrédients, entre guillemets, comme les food maps, qui sont des sucres fermentifs qui sont impliqués. Ça ressemble à une sorte de mixte entre le trouble fonctionnel intestinal et la colopathie, on va dire. Et la maladie cœliaque, mais ce n'est pas une maladie cœliaque. Et puis au fil du temps, il n'y a pas de danger dans la maladie cœliaque. Si on ne suit pas son régime, on peut développer de l'ostéoporose, de l'anémie, des cancers même, des lymphomes associés à la maladie cœliaque. Donc c'est sérieux, il n'y a pas de risque dans les familles.
C'est-à-dire que ça, c'est la grande différence avec l'hypersensibilité au gluten non cœliaque. Il n'y a pas de risque à moyen et long terme.
Et à long terme. Et
il y a juste des inconforts divers et variés.
Voilà, et on peut.
Qui entament la qualité de vie.
Ah ben, qui peuvent pourrir la qualité de vie, mais par contre, on peut essayer des réintroductions sans danger chez ces gens-là, qui vont après pouvoir remanger au fil du temps, parfois un peu de gluten, plus ou moins selon leur sensibilité.
Boris Ancel, il faudrait systématiser ce test pour rechercher une maladie cœliaque ?
Alors moi, je parle en tant que médecin non spécialisé de cette maladie cœliaque. C'est effectivement la question que je voulais poser au professeur Cellier, c'est-à-dire que si on dit qu'on a 1 à 2% la population qui a cette authentique maladie cœliaque, Beaucoup de gens qui se plaignent de symptômes et qui errent dans les diagnostics et qui vont à droite à gauche. Est-ce qu'il ne faut pas faire un dépistage systématique quand on pense que les anticorps sont présents? Je crois que vers l'adolescence, si on a la maladie cœliaque, les anticorps sont là. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à faire un dépistage général qui permettrait de diagnostiquer? Parce que c'est dur de diagnostiquer quand on est médecin non spécialiste. Hein, et en même temps, de ne pas surdiagnostiquer ce qui n'est pas maladie cœliaque.
Professeur Cellier.
Oui, c'est un choix, je dirais, quasiment stratégique et politique. Ça a été fait en Italie. En Italie, il y a un dépistage qui a été mis en place par la loi, c'est-à-dire tous les enfants, à l'âge de 6 ans, enfin scolaire, ont un dépistage systématique de la maladie cœliaque en Hollande. En France, il y a eu un groupe de réflexion auquel je participe.
Quelles sont les résistances dans notre pays ?
Bah, les résistances, c'est pour l'instant probablement la connaissance de la maladie, la mauvaise connaissance de la maladie, et après, les bénéfices sur la population. Peut-être ça arrivera en France. Pour l'instant, on est plutôt sur une sensibilisation au dépistage dans les populations à risque.
Alors, Christophe Sellier, pourquoi certaines personnes qui ne sont ni atteintes de la maladie cœliaque et qui ne sont pas sensibles au gluten peuvent affirmer se sentir mieux en arrêtant le gluten? Il y a cette mode quand même du sans gluten, alors qu'on n'est pas hypersensible au gluten et qu'on n'est pas atteint de la maladie cœliaque.
Alors effectivement, c'est pourquoi? Parce que le gluten, c'est quand même une protéine qui est un peu difficile à digérer, on va dire. C'est un peu lourd pour l'intestin. Donc les gens qui mangent sans gluten peuvent se sentir plus légers. Et ça a été des modes, hein, par exemple dans le milieu sportif, notamment le tennisman à un moment, je pense qu'ils étaient tous au régime sans gluten.
Djokovic.
Entre autres, mais pas que. Et alors après, on n'a pas d'effet de preuve. Il y a eu une seule étude qu'on a fait chez des cyclistes professionnels. Le fait qu'ils soient avec ou sans gluten n'a pas amélioré leur performance sportive. Après, si on est mieux quand on ne mange pas de gluten, je dirais ça ne mange pas de pain.
Boris Ancel.
Oui, je crois que c'est, de manière générale, en nutrition, on connaît à quel point le fait de faire attention à soi a un impact immédiat sur son bien-être. On a cet effet chez des personnes qui arrêtent le gluten, ou chez des personnes qui arrêtent certains additifs, ou des personnes qui arrêtent de manger tel ou tel aliment. Alors moi, j'ai envie de dire, si on se sent mieux de cette manière, et qu'il n'y a pas de carence, et a priori, il n'y a pas de carence, si on arrête certains aliments riches en gluten, pourquoi pas? Là où il faut faire très attention, c'est de ne pas aller vers des aliments qui seraient finalement délétères pour la santé, parce que sans gluten, ça ne veut pas dire bon pour la santé.
Il existe une gamme de produits ultra transformés sans gluten qui ne sont pas forcément bénéfiques pour la santé à moyen et à long terme.
Absolument, ça a été bien évalué, et la plupart des produits sans gluten industriels, elles sont plus riches en graisse, sont ultra transformées, plus riches en certains additifs. Donc sans gluten, ça ne veut pas dire bon pour la santé. Donc on peut manger sans gluten, mais attention par quoi on remplace. Hein.
Clémentine Oliver.
Oui, je suis d'accord sur ça. Et sur une autre chose aussi, c'est que c'est un phénomène plus de société, à mon avis, qu'un phénomène de mode. En l'occurrence, c'est parce qu'il y a eu le blé qui a été ultra transformé et qui a entraîné des allergies. Mais il y a autre chose sur laquelle je rebondis là, c'est que effectivement, ce n'est pas toujours très bon. Et c'est parce que c'était pas bon du tout pour mon palais, en tout cas à l'époque, quand j'ai découvert mon intolérance au gluten, donc c'était en 2010, quand on allait demander du pain dans un magasin, on avait le pain, on lâchait sur le pied, c'était une brique, ça nous pétait le pied. Hein. Et là, j'ai dit, c'est pas possible.
Et Clémentine Oliver, on l'a dit tout à l'heure, le seul traitement contre la maladie cœliaque, c'est d'adopter un régime sans gluten. C'est un régime qui doit être poursuivi à vie.
Oui.
Quelle est la contrainte dans votre vie quotidienne? Parce que là, vous nous avez apporté, vous allez nous raconter une palette de pains absolument délicieux, de pâtisseries délicieuses que Boris Ancel a bien enfournées depuis le début de cette émission. Mais c'est un régime relativement contraignant.
Surtout au début, parce qu'au début, on prend une gifle, hein, on dit c'est quoi, mais comment, mais tout ça, mais non. Et puis on pense surtout, on ne va plus avoir le droit de... Alors là, moi, j'ai dit, attends, mais toute ma vie, je vais rester comme une imbécile à regarder les autres. Parce que je me souvenais, moi, j'ai mangé pendant 37 ans avec gluten. Je dis, tous les autres, ils vont se régaler, moi, j'étais comme une imbécile.
Ils vont se régaler avec du pain, des viennoiseries, des pâtes alimentaires, des biscuits, des céréales du petit déjeuner, sans compter tous les aliments panés, enrobés de pâtes à frire, les soupes où il y a du gluten dans certaines soupes industrielles, certaines sauces, les desserts qui sont liés avec de la farine de blé. Bon, bref, sans oublier la bière, avec modération. Donc voilà, c'est vrai que vous êtes là, vous êtes en société, et puis qu'est-ce que vous mangez, vous?
C'est ça, c'était l'idée. Moi, j'ai toujours aimé le partage, puisque dans ma famille, comme vous l'avez si bien dit, Ali, on partage, on est des familles de cuisiniers, on fait des grandes tablées. Et puis, le truc du gluten, en plus, c'est le gluten caché, puis c'est la contamination croisée. Donc, il faut que tu fasses gaffe à ne pas avoir à côté des miettes de pain et tout. Donc, on rentre dans un coin, c'est pas possible. Donc, c'est là que j'ai dit, non, je ne vais pas rester comme ça. Et j'ai eu envie de faire autre chose et faire, du coup, des bonnes des bonnes recettes sans gluten. Et donc, là, on a travaillé avec mon père.
Alors, vous remplacez la farine de blé par quoi ? Par de la farine de riz,
de la farine de maïs,
du sarrasin ?
Oui.
Et le quinoa également ?
Moi, je ne me sers pas de quinoa dans mes
mais
pains.
Mais la belle miche de campagne devant moi, elle est faite à base de quoi ?
Celle-là, il y a du sarrasin,
décrivez-la, elle est très...
Il y a de la farine de riz, de la châtaigne, du sarrasin... Ouais. Et puis beaucoup d'amour.
C'est vrai.
Parce que je l'ai fait à la main, mes pains. Mmh, ouais. Toutes les pains, les gourmandises. Et tout est fait de façon totalement artisanale, avec que des produits bio garantis sans gluten.
Moi, j'ai senti l'amour, Ali, hein, quand j'ai mangé.
Le cake au citron, par exemple, vous remplacez la farine de blé par quoi ?
Je mets de la farine de riz, de l'amidon de maïs. Mmh. Et puis, je mets du jus de citron de Sicile, des zestes de citron. Je mets aussi de l'huile essentielle de citron bio. C'est de la margarine végétale, donc là c'est sans lactose aussi. Et puis à la fin, je l'imbibe d'un sirop de citron que je fais moi-même.
Vous avez goûté autour de la table, honnêtement, qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi j'ai été au cannelet. Pour commencer, c'est excellent.
Merci. Tiens, une première recette, je vous ai demandé quelques recettes, Clémentine Oliver. Qu'est-ce que vous nous proposez, tiens ?
La salade d'endive à la sauce d'anchois.
Allez-y.
Alors, c'est pour 4 personnes. Donc, vous coupez l'embout de 5 belles endives. Vous les découpez en rondelles d'un demi centimètre environ, que vous réservez dans le saladier de service. Et dans un mixeur, vous mettez 8 beaux anchois à l'huile, une belle cuillère à café de moutarde forte, le jus d'un quart de citron, ça équivaut à peu près à une cuillère à soupe, hein, de jus de citron, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, et vous mixez le tout en une belle purée que vous réservez, que vous versez sur les endives en rondelles. Vous mélangez longuement, que tout s'incorpore bien. Et comme les anchois sont salés, on n'a pas forcément besoin d'ajouter du sel. Mais vous goûtez. Si vous avez besoin d'ajuster, vous ajustez. Et puis pour la décoration, vous mettez au-dessus du saladier, prenez une belle botte de ciboulette et vous la coupez en petits tronçons et vous mélangez harmonieusement. Vous servez, vous régalez.
Voilà, une belle recette gourmande sans gluten. Peut-être un taboulé rapidement.
Oui,
peut-être si on aime bien le taboulé et que voilà, on ne peut pas effectivement manger du blé. On remplace par du quinoa.
Tu remplaces par du quinoa. Et là, il faut cuire le... Alors là, le quinoa, on y va là-dessus. Donc là, il faut laver sous eau froide le quinoa. Et puis, il faut mettre 2 volumes d'eau pour 1 volume de quinoa.
Un peu comme pour le riz.
Un peu comme pour le riz. Mais ça cuit plus rapidement. Et on sale l'eau. Ensuite, on met le quinoa qui est égoutté à ébullition pendant 20 minutes. Et puis ensuite... sur feu doux, et puis ensuite, on le met jusqu'à absorption complète, on le met de côté, et puis après, on peut faire un taboulé avec des herbes à la libanaise, où on ajoute plein d'herbes. J'ai une petite recette sur YouTube aussi qui est sympa là-dessus.
Maurice Ancel, ça vous donne envie ?
Mais depuis que j'ai mangé le cookie au chocolat, je bois vos paroles, et je vais manger vos plats.
Professeur Cellier, est-ce que c'est compliqué pour vos patients de suivre un régime sans gluten ? Et comment vous les accompagnez justement ? Parce que c'est vrai que trouver des recettes gourmandes sans gluten, c'est pas évident.
C'est un réel problème en fait, parce que sur le papier c'est très simple, on dit vous faites un régime sans gluten, sauf que dans les faits, c'est très compliqué en société, chez des amis, en collectivité, c'est de très très complexe. Hein. Et donc on estime que 30 à 50% des sujets qui devraient suivre le régime sans gluten ne peuvent pas le suivre pour des raisons de coût, pour des raisons de... Et parfois, ça fonctionne pas suffisamment. C'est pour ça qu'il y a actuellement des tentatives, hein, pour l'instant je dis bien tentatives, de traitements alternatifs au régime sans gluten pour essayer de pouvoir améliorer la qualité de vie, puisque 30% de nos patients sont pas suffisamment améliorés par le régime sans gluten, soit parce qu'ils n'arrivent pas bien à le suivre, en trouvant les bons aliments, parce que c'est quand même un peu compliqué, soit parce que ça marche pas toujours, et il y a certains patients qui sont pas suffisamment améliorés par le régime sans gluten.
Et j'accueille Christian Rémézy, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes nutritionniste, ancien directeur de recherche à l'INRAE, et vous aviez publié il y a quelques années « Sauvons le pain ». De nombreux auditeurs nous demandent quel est le rôle de la culture de certaines variétés de blé et de la présence de pesticides dans l'hypersensibilité au gluten. Quel est votre point de vue, Christian Rémézy ?
Alors, concernant la culture du blé, c'est vrai que la force viscoélastique du gluten s'est beaucoup augmentée. A beaucoup été augmenté, pardon. Et donc ça, c'est des blés modernes, qui ont une force boulangère très importante. et il est possible que ça ait eu un effet sur l'hypersensibilité au gluten. Mais enfin, si vous voulez mon opinion un peu globale, il faut tout changer. Mm-hmm. Donc c'est pas vaste programme.
Oui, vaste c'est programme, dire, j'allais vous le dire.
Oui, à la fois diminuer beaucoup, beaucoup la consommation de toutes sortes de produits transformés, parce que ce sont des aliments riches en additifs, pauvres en fibres alimentaires, qui fragilisent le microbiote, qui fragilisent le tube digestif. Donc, si on n'assainit pas d'abord l'alimentation globale, on résoudra pas le problème de l'intolérance au gluten. Et deuxièmement, il faut aussi changer le pain, c'est-à-dire faire du pain au levain avec des farines bises, sans additifs, arrêter de pétrir très fortement. Donc, c'est pour ça que le programme est vaste. Mmh. Donc, après, le restant, c'est du bricolage. Donc, avoir une nourriture plus saine, plus riche en crudités, moins riche en produits transformés, et également changer la nature du pain consommé. Donc, c'est beaucoup.
Christian Remézy, si je vous comprends bien, et là, évidemment, on ne parle pas des personnes qui sont atteintes de la maladie cœliaque, on parle plutôt des hypersensibles au gluten. Si je vous comprends bien, avec toutes vos préconisations, il serait possible que ces personnes-là ne soient plus hypersensibles au gluten.
Bien sûr, à partir du moment où elles ont un territoire digestif sain, par une alimentation très riche en produits végétaux, très naturels, effectivement, enfin, on va dire que des fois, lorsqu'une personne a un microbiote vraiment très dégradé, la possibilité de restaurer l'état de santé de son microbiote n'est pas facile. Mais enfin, il n'y a pas d'autre solution. Voilà.
Qu'en pensez-vous, professeur Cellier ?
Sans doute, oui. Je pense que le rôle du microbiote est essentiel. Par contre, je pense que c'est très multifactoriel. Il ne faut pas oublier que le tube digestif, c'est un peu notre deuxième cerveau et qu'il y a des tas d'impacts. Il y a l'alimentation, le microbiote, le stress, le mode de vie. Enfin, tout est extrêmement entrelié et on ne sait pas encore comment faire la part des choses.
Merci beaucoup, Christian Remézy, d'être intervenu dans cette émission. Il est 10h40, l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf, docteur, avec le professeur Boris Ancel.
Ah ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Alors, professeur Boris Ancel, quels sont les véritables bienfaits de la soupe?
Ah, la soupe. Ou plus précisément, le potage. C'est un grand classique de nos repas d'hiver. Ce plat réconfortant, il a aussi des vertus pour notre santé. Mais pour en profiter pleinement, j'ai quelques conseils pratiques à vous donner. Alors d'abord, rappelons qu'un potage, c'est un bouillon dans lequel on a fait cuire des légumes ou des légumineuses, parfois mixés. C'est un plat intéressant sur le plan nutritionnel, notamment parce qu'il facilite la consommation de végétaux, même chez ceux qui ne sont pas fans des brocolis et des lentilles.
Donc on peut dire que c'est un bon moyen d'avoir davantage de fibres et de vitamines dans son assiette.
Oui, le potage apporte des fibres qui sont essentielles, on sait, pour rester en pleine santé. Alors certes, le mixage casse ces fibres et réduit un peu leur effet bénéfique sur le transit intestinal, mais ces fibres conservent quand même une bonne partie de leurs bienfaits protecteurs. Quant aux micronutriments, en particulier les vitamines, ils sont bien présents, à condition toutefois de ne pas cuire les légumes trop longtemps. Par exemple, la vitamine C, qui est très sensible à la chaleur, commence à se dégrader dès 60 degrés. Donc le mieux, c'est de cuire les légumes à la vapeur pendant moins de 10 minutes. Au-delà de l'apport en nutriments, boire de la soupe, c'est aussi une bonne manière de s'hydrater. Et ce qui est tout aussi important en hiver qu'en été, d'autant qu'en saison froide, on est souvent surchauffé en intérieur.
Alors Boris Ancel, on entend souvent dire que la soupe aiderait à perdre du poids. C'est un mythe ou une réalité?
Alors plusieurs études ont montré que la consommation de soupe s'est associée à une densité énergétique alimentaire plus faible. Ça veut dire qu'on mange un peu plus d'aliments en volume et moins de calories, c'est ça, manger avec une densité énergétique plus faible. C'est également associé à une meilleure qualité de l'alimentation. Voilà pourquoi ça peut contribuer à la gestion du poids corporel. De plus, la consommation de soupe avant un repas, ça peut augmenter la satiété et réduire l'apport énergétique total du repas. C'est notamment ce que révèle une étude publiée dans la revue Appetite en 2007. Il y a une autre étude qui peut inciter ceux qui veulent maigrir à manger de la soupe, publiée en 2014 dans British Journal of Nutrition. Elle révèle que les consommateurs de soupe ont un poids corporel et un tour de taille inférieur par rapport aux non-consommateurs. Attention toutefois, c'est de l'épidémiologie et il faut dire la vérité. Manger de la soupe tous les jours, ce n'est pas le traitement miracle du surpoids. Il faut arrêter de penser que l'estomac, c'est une poche que l'on va remplir avec du liquide pour éviter de manger, ça ne fonctionne pas. Alors vous allez me dire qu'il y a bien ce fameux régime soupe aux choux, bien connu dans le monde entier et créé dans les années 50, peut-être même avant, et qui était très utile pour faire maigrir vite des patients qui devaient subir une intervention chirurgicale en urgence. Alors oui, ça fonctionne, parce qu'en ne mangeant que de la soupe aux choux, on a un déficit calorique très important, mais c'est la reprise de poids assurée à 100% quand on arrête.
Alors, la soupe pour perdre du poids, bon, c'est pas forcément une bonne idée, mais est-ce qu'elle fait grandir les enfants et est-ce qu'elle nous fait mieux vieillir ?
Alors oui, la consommation de soupe peut avoir des effets bénéfiques sur la croissance et le développement des enfants et des adolescents. On ne va pas leur mentir quand on leur dit qu'il faut manger de la soupe pour grandir. Une étude a montré que servir de grandes portions de soupe de légumes en début de repas, c'est très efficace pour faire augmenter la consommation de légumes chez les enfants, ce qui est souvent difficile. Et ça, c'est bénéfique pour aider à leur bon développement. Et chez les personnes âgées, plusieurs études ont montré que les soupes enrichies en protéines améliorent la santé musculaire et les performances physiques. Alors en pratique, oui, la soupe, c'est très bon, c'est excellent à tout âge. Si possible, fabriquez les potages vous-même, parce qu'en briques ou en conserve, le problème, c'est l'ajout de sel et de matières grasses qui peuvent vraiment contrebalancer le bénéfice du produit. Donc si vous achetez la soupe industrielle, privilégiez le surgelé avec un minimum d'ingrédients, hors légumes et légumineuses. Vous retrouvez bien sûr les références scientifiques de cette chronique sur le site de France Inter.
Tous les épisodes de Quoi Neuf Docteur de Boris Ancel sont à télécharger sur l'appli Radio France et on peut retrouver vos vidéos sur les réseaux sociaux.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse sur France Inter.
Faut-il adopter un régime sans gluten ou sans lactose quand on n'est pas intolérant ? C'est notre thème ce matin. Professeur Christophe Sellier, je rappelle que vous êtes hépato-gastro-entérologue. J'aimerais qu'on s'intéresse à l'intolérance au lactose. C'est quoi exactement ? C'est un problème lié à la digestion du sucre contenu dans le lait et ses dérivés. Et oui. Cette intolérance provient d'un déficit de lactase. La lactase qui est une enzyme.
C'est une enzyme qui est sur la bordure en brosse, c'est-à-dire sur la peau intestinale du petit intestin, qui sert à digérer ces sucres. Et un certain nombre de la population est peut-être intolérant au lactose. Alors, les chiffres sont pas si clairs que ça. Il y a des grandes intolérances, mais qui sont diagnostiquées très tôt dans la vie, avec des diarrhées, des douleurs abdominales, des maux de ventre.
Pour bien comprendre les choses, c'est quand le lactose n'est pas transformé par cette enzyme, la lactase, cela peut donc entraîner des symptômes digestifs plus ou moins inconfortables.
Plus ou moins inconfortables, il y a ce qu'on appelle une pullulation microbienne dans l'intestin grêle qui peut favoriser un peu ces ballonnements, des diarrhées, un inconfort. Alors après, l'intolérance au lactose, elle est... On n'en connaît pas exactement la fréquence. Là, on a fait une enquête avec la Société française de gastro-entérologie dans la population générale. Il y a environ 40% de la population qui pensent que leurs ballonnements sont liés soit à une intolérance au lactose, soit à une intolérance au gluten.
Qui pensent, mais ce n'est pas forcément prouvé.
Et ce qui est loin, à mon avis, d'être le cas, hein, puisque c'est plutôt des troubles fonctionnels intestinaux, des choses comme ça. Donc l'intolérance au lactose fait partie d'un panel hein, de régimes potentiels. Si vraiment on ballonne, juste après avoir pris du lait, si tous les matins vous prenez du lait que votre tour de taille triple, là, à ce moment-là, il faut diminuer la consommation de laitage. Quoi.
Alors je précise, professeur Sellier, que la lactase est produite par l'intestin et décompose le lactose provenant de l'alimentation en deux autres sucres, c'est ça, le glucose et le galactose, et ces deux sucres seront facilement absorbés par l'intestin grêle.
Exactement.
Et donc, par exemple, voilà, si on sent une légère, un léger inconfort après avoir bu du lait, vous conseillez d'éliminer totalement tous les produits laitiers ?
Non. D'abord, les produits laitiers, c'est quand même essentiel pour bien grandir, bien vivre chez les enfants notamment.
Et deuxièmement, tous les produits laitiers ne contiennent pas du lactose dans la même proportion.
Et deuxièmement, c'est de voir si vraiment il y a une gêne importante. Si quand vous supportez plus le lait, il faut mieux l'éliminer et le remplacer par d'autres laitages. Et puis, les intolérances au lactose, c'est plutôt généralement pour les produits laitiers, par exemple pour les fromages. À pâte dure, il y a peu d'intolérance au lactose, puisqu'il y a peu de lactose dedans.
Quel est le test pour diagnostiquer une éventuelle intolérance au lactose? J'ai entendu parler d'un test respiratoire à l'hydrogène.
Voilà, exactement.
C'est quoi exactement?
On fait souffler en fait dans un ballon en ingérant un sucre préalablement, et ça doit produire une production de gaz qu'on va recueillir en soufflant, hein, comme un éthylotest, hein, si je puis dire, pour connaître le taux de fermentation et d'hydrogène produit. Après, ces tests peuvent être variables et ne sont pas toujours corrélés, associés aux symptômes. Donc, nous, on les fait quand même de façon mesurée chez des patients qui ont des symptômes très, très marqués ou très gênants. Je crois qu'il ne faut pas se lancer dans la diffusion de ce type de test de façon courante chaque fois qu'on a des ballonnements.
Est-ce que l'ethnicité peut entraîner des intolérances au lactose? On dit que, par exemple, les personnes originaires d'Asie ou d'Afrique sont plus intolérantes au lait de vache que ceux qui habitent en Europe ou dans le nord de l'Europe. J'ai entendu ça très souvent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est prouvé par la science?
Je ne suis pas sûr que ce soit très clairement identifié. Les intolérances majeures, effectivement, il y a des questions génétiques, hein, ou dans certains continents où on n'a pas de production de lactase, mais là, c'est des maladies graves qui surviennent très tôt dans l'enfance. Mais pour l'intolérance au lactose classique, je ne suis pas sûr qu'on ait étudié très précisément, suivant les typologies de race, entre guillemets, cette intolérance au lactose. Peut-être que mon confrère...
Professeur Ancel.
Oui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une mutation qui fait qu'on produit éventuellement pas de lactase, que disait mon collègue, dans certaines populations, mais que dans le monde occidental, on a de la lactase, mais tout le monde n'en a pas autant. Voilà. Donc on peut être plus ou moins sensible, et c'est pas parce qu'on a peu de lactase qu'on ne peut pas consommer du tout de produits laitiers. Chacun peut trouver le seuil. Et moi, ce que je propose à mes patients, c'est éventuellement d'arrêter les produits laitiers qui contiennent du lactose. Et on a bien dit, pas le fromage, pas de dur qui n'en contient pas. Mmh. Et les yaourts en contiennent très peu parce qu'il est digéré par les bactéries.
Le lait en poudre contient énormément de lactose.
Effectivement, donc éventuellement d'arrêter le lait pendant un moment, et puis de réintroduire des petites quantités et de trouver quelle est la dose qui nous convient. Et la majorité des patients qui veulent bien consommer du lait, parce qu'après il y a d'autres questions éthiques ou quoi qui peuvent se poser, ou des croyances de santé là-dessus, la plupart vont arriver à consommer un peu de produits laitiers tous les jours.
Est-il vrai que l'on est de plus en plus intolérant au lactose à mesure que l'on vieillit? C'est une idée reçue
Professeur Cellier. C'est une idée, en tout cas, qui n'est pas documentée en ce qui me concerne. C'est sûr que le vieillissement diminue un petit peu le turnover des cellules intestinales, et peut-être la production de lactase, de cette enzyme, mais ça, je ne suis pas sûr que ce soit vrai.
Clémentine Oliver, je rappelle que vous êtes boulangère pâtissière, que vous fournissez de grands palaces et de grands hôtels. Vous n'êtes pas intolérante au lactose, j'espère?
Non, ça va, le lactose, mais par contre, tous mes produits sont à 99% sans lactose, tous sans gluten, et il n'y a que les cannelés qui eux, ont le lactose, mais je travaille dessus pour...
Est-ce que vous avez une petite recette à nous proposer?
Oui, bien sûr. J'ai deux recettes, les nuggets de poulet et le moelleux au chocolat.
Allez-y. Alors les nuggets de poulet, à votre manière, une panure qui sera sans gluten. Donc.
Qui sera pas, ce sera juste, c'est une recette en plus de mon cher papa.
Michel Oliver.
Avec de la polenta instantanée qui va remplacer. Alors vous avez devant vous deux assiettes creuses, l'une avec deux œufs battus en omelette, l'autre avec 10 cuillères à soupe de polenta instantanée, et à côté, vous avez un grand plat. Vous avez devant vous 4 beaux filets de poulet fermiers. Vous les partagez en deux dans le sens de l'épaisseur, ça vous fait 8 belles escalopes de poulet. Et vous salez légèrement chaque côté des escalopes de poulet. Vous peignez avec un pinceau de cuisine un côté de chaque escalope que vous trempez dans de la moutarde forte. Et vous coupez chaque escalope de poulet en rectangle de 2 cm sur 5 cm. Vous trempez ensuite ces rectangles rectangle d'escalope de poulet moutardée dans les deux œufs battus en omelette. Et ensuite, dans la polenta instantanée. Et vous appuyez bien hein, pour que ça rentre bien, la polenta, hein, dedans. Oui.
Après, ça donne envie.
Après, c'est pas fini. Hein. L'étape arrive maintenant. Ensuite, vous réservez sur le grand plat et vous mettez de l'huile d'olive environ 10 centilitres dans une grande poêle, posée sur feu moyen. Et quand elle
vous êtes généreuse, hein, comme votre père.
On est généreux dans ma famille, toujours. Hein. Et ensuite, vous rangez les morceaux de poulet, vous les faites dorer des deux côtés et ça prend 10 minutes de cuisson, donc ça fait 5 minutes de chaque côté. Ensuite, vous les posez sur le plat et vous allez vous éclater.
En tout cas, c'est une bonne idée, la polenta pour la panure. Et vous savez quoi ? Votre recette de moelleux au chocolat, on va la mettre sur le site. Parce que là, on n'a pas le temps, on doit accueillir une philosophe. Bonjour Anne-Sophie Moreau.
Bonjour Ali.
Vous venez de publier au Seuil Fermentation, kéfir, compost et bactéries. Pourquoi le moisi nous fascine ? Vous êtes normalienne, philosophe et rédactrice en chef à Philosophie Magazine. J'avais envie de conclure cette émission avec vous parce que j'aimerais savoir, selon vous, au fond, que raconte cette tendance lourde qui n'est pas simplement une mode du sans gluten, du sans lactose, notamment chez celles et ceux qui ne sont pas forcément intolérants au gluten ou au lactose. Qu'est-ce que ça raconte pour vous, Anne-Sophie Moreau ?
Oui, alors la question, c'est effectivement de savoir pourquoi est-ce que certaines personnes qui ne sont pas forcément allergiques au sens propre au gluten ou au lactose décident de se priver de certains aliments. Alors je dirais que la première hypothèse, c'est que nous vivons aujourd'hui la fin de la société d'abondance dans laquelle nous avons grandi, mais qui nous marque encore énormément. Donc nous essayons finalement d'apprendre à vivre sans, pour reprendre le titre d'un essai de Mazarine Pinjot qui avait consacré toute une réflexion à cette question du marketing du sang, voilà, le fait que les marques vous vendent désormais des produits privés de certains éléments, ce qui est paradoxal, et elle explique notamment que c'est parce que nous avons finalement du mal à nous décider à vivre sans consommer que nous nous mettons à consommer sans. Voilà, c'est une sorte de manière de se déculpabiliser finalement de vivre dans une société qui, de manière générale, consomme trop. Et ensuite, moi, ce que je trouve intéressant, notamment par rapport aux réflexions que je développe dans mon livre Fermentation, c'est finalement l'évolution des dégoûts vis-à-vis de la nourriture. C'est-à-dire que lorsqu'on se prive de certains éléments nutritifs, finalement, ça reflète aussi une façon, une manière de, une difficulté de finalement d'ingérer le monde extérieur, vous direz des philosophes comme Jean-Paul Sartre. Et il me semble qu'il est intéressant de relever le fait qu'à la fois il y a un rejet de certains éléments comme le gluten, le lactose, etc., mais il y a aussi une forme de réconciliation avec d'autres éléments, notamment ce qu'on considère comme des aliments vivants, tous les probiotiques, les bactéries qui peuplent notre microbiote. Vous l'avez dit tout à l'heure lors de l'émission, le fait de manger des probiotiques ou le fait de prendre soin de son microbiote intestinal, ça nous permet aussi de digérer mieux justement tous ces éléments que sont le gluten et le lactose. On a beaucoup parlé, par exemple, du fait que les pains industriels qui sont levés avec de la levure artificielle, ça laisse trop de gluten dans le pain et ça le rend impossible à digérer. Tandis que le pain au levain, c'est-à-dire le fait que le pain soit levé avec des ferments naturels, avec des êtres vivants, ça transforme les sucres comme ceux du lactose en acides lactiques pour la fermentation, ou bien le gluten du pain, ça nous aide à digérer le gluten du pain. Et donc finalement, il y a aussi une forme de réconciliation avec tout un tas d'éléments de la nourriture qui sont vivants et qui permettent de créer une sorte d'intermédiaire entre nous et ce monde inerte qui est le monde extérieur.
Merci beaucoup Anne-Sophie Moreau pour vos réflexions et je renvoie vraiment à votre livre Fermentation, kéfir, compost et bactéries, pourquoi le moisi nous fascine, et je renvoie à une émission récente que vous avez faite chez Mathieu Vidard dans La Terre au Carré. Merci beaucoup professeur Christophe Sellier, merci d'être venu. Merci professeur Boris Ancel et merci beaucoup Clémentine Oliver, boulangère, pâtissière sans gluten, et Amélie Perrier, je crois, s'est délectée de votre moelleux au chocolat. Merci d'être venu ce matin. Demain, le bonheur selon André Comte-Sponville.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.